Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on renoue avec les sagesses des peuples premiers. Dans son livre « Ce que les peuples racines ont à nous dire » aux éditions Les Liens qui libèrent, l'autrice Frederica Van Engen fait le lien entre notre monde moderne et des savoirs ancestraux perdus. On y découvre notamment comment les thématiques de la médecine, de la psychologie et de l'écologie de notre monde moderne se sont fait l'écho des sagesses millénaires que nous avons oubliées. Bonjour Frederica.
Bonjour.
Alors Frederica Van Engen, vous êtes journaliste.
Je suis journaliste.
Autrice et conférencière, vous avez travaillé pendant 12 ans pour le magazine de vulgarisation scientifique, ça m'intéresse, et d'autres magazines sur les thèmes de l'environnement, de la santé, de la psychologie et aussi des peuples premiers.
Oui, absolument.
Alors, vous êtes l'autrice du livre qui nous réunit aujourd'hui, « Ce que les peuples racines ont à nous dire, de la santé des hommes et de la santé du monde » aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, c'est un livre passionnant que j'ai lu avec délectation. Ce livre explore les principes des sagesses anciennes, des sagesses perdues, celles des peuples premiers. Alors, dans votre livre, vous dites que votre démarche consiste à aller chercher, dans des techniques ancestrales, des fondamentaux laïques qui peuvent être utilisés par tous, quelle que soit la culture ou la religion. À cette fin, comment s'est faite votre rencontre avec ces peuples? Qui sont-ils? Comment nous perçoivent-ils? Et comment les savoirs de ces peuples peuvent-ils nous inspirer dans notre approche de vie, de la santé et de nos façons d'interagir avec nous-mêmes, l'autre et le monde?
Vaste
ouais,
question.
Il y a trois questions, je vous ai mis toutes en même temps, tout d'un coup.
Alors, je vais commencer par la première. La rencontre, alors, je dirais que ça a commencé d'abord par une rencontre avec moi-même, en fait. C'est à partir du moment où j'ai commencé à faire un chemin vers moi-même que j'ai rencontré... par les hasards, je mets toujours le mot hasard entre guillemets, de la vie des passeurs de ces peuples, c'est un premier, un deuxième, un troisième, et soudain je me suis dit, mais alors c'était intéressant parce que ce chemin que j'avais fait vers moi-même, j'avais exploré la méditation, j'avais exploré quelques approches de développement personnel qu'on peut trouver chez nous, et puis soudain je me disais, mais tout ça est vraiment réuni dans ces savoirs, dans ces savoirs dont me parlent ces personnes-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait pour chacun évidemment une culture spécifique, mais les fondamentaux, l'esprit était le même chez tous ces peuples-là et qu'on avait à travers ces approches quelque chose qui nous manque cruellement chez nous, qui est quelque chose comme le sens, la conscience du lien, la conscience de la relation et surtout l'idée de qui je suis, quelle est ma place et qu'est-ce que je viens faire ici. Donc voilà, ils répondent à peu près à toutes les questions fondamentales que les humains peuvent se poser dans notre société un peu déracinée, parce que finalement ce que j'ai découvert aussi c'est que tous ces malaises chez nous viennent du fait qu'on est déraciné, c'est-à-dire déconnecté de la terre sur laquelle on vit, alors qu'eux n'ont pas perdu ce lien. Donc j'ai d'abord rencontré ces passeurs, donc des personnes issues de notre culture qui ont vraiment passé énormément de temps avec eux, avec ces peuples-là, donc différents peuples, les Kogi de Colombie, les Navajos en Arizona, les Maasai au Kenya. Et puis, donc de fil en aiguille, j'ai essayé de mettre ensemble toutes ces différentes approches pour essayer d'en retirer ce qu'il y a finalement peut-être d'universel et qui peut nous parler à nous-mêmes. Donc au fil du temps, j'ai rencontré des passeurs aussi issus directement de ces peuples-là, de Mongolie, donc aussi du Kenya, de nouveau chez les Maasai, d'Amérique du Sud, etc. Et à chaque fois, je retrouve en fait ces fondamentaux qui à la fois permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres et à la nature.
Et donc, de quels fondamentaux parle-t-on ?
Alors, je vais dire que ce sont les liens. Finalement, tous ces peuples-là, ce qui travaillent avant toute chose, c'est le lien. Alors, quand je dis le travail, c'est pas forcément conscient comme nous quand on va faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire que chez certains d'entre eux, la notion du je n'existe pas. C'est-à-dire que je n'existe qu'à travers la relation. Donc, la relation à l'autre. L'autre humain, donc au groupe dont je fais partie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, le groupe dont je fais partie, c'est quelque chose qu'on ignore peut-être un peu trop chez nous. De quel groupe est-ce qu'on fait partie? C'est toujours une question intéressante. Et puis la relation à tout ce qui les entoure, c'est-à-dire que dans leur vision, le monde visible est l'émergence d'une intelligence du vivant, donc de quelque chose d'invisible. Donc tout ce qui est autour de nous nous parle en fait. Et certains de ces peuples qui n'ont pas quitté leurs terres ancestrales, qui sont restés véritablement en lien avec leur culture, sont encore en capacité de lire tout ce qui les entoure comme un livre, comme nous on lit un livre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que il semblerait que nous ayons recruté dans notre cerveau des zones pour la lecture qui sont les zones qui permettent à un chasseur dans la forêt amazonienne d'aller, d'un tracker d'aller trouver ce dont il a besoin. Donc c'est finalement une lecture, tout simplement. De la même façon que nous lisons des livres, eh bien, ils ont une capacité de lire la nature dans laquelle ils vivent, qui va bien sûr leur permettre de manger, mais aussi d'être, de savoir qui ils sont. Parce que là, dans ce sens-là, dans cette société-là, ces informations servent aussi à savoir d'abord qui suis-je, quelle est ma place et comment je vais me relier à la société dont je fais partie et à laquelle je vais contribuer.
D'accord. Comment perçoivent-ils notre société, enfin, occidentale, notre façon d'être? J'ai vu dans votre livre, j'ai trouvé ça très, très attachant. Enfin, oui, très attachant. Ils nous appellent les petits frères.
Alors les Kogi, oui, ils nous appellent les petits frères.
Et du coup, quel retour vous avez de ces peuples? Quelles analyses, quelle perception ont-ils de nous, en fait?
Enfin, les Kogi typiquement se demandent ce qui nous arrive. Je ne pense pas qu'ils le disent dans ces termes-là, mais on peut le traduire par le fait qu'ils pensent qu'on va pas bien, qu'on est malade, que nous sommes collectivement malades et ils ne comprennent pas pourquoi on considère le monde comme une ressource, pourquoi on se sert, pourquoi on prend. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tout simplement parce qu'ils ont toujours vécu dans des environnements naturels et que pour eux, c'est la collaboration avec la nature qui permet de perdurer, qui permet de fonctionner. Alors nous, à un moment, on a complètement oublié ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on s'est dit que les ressources étaient sans limite et on a coupé la relation de respect et de communication avec la nature en réalité. Donc, pour cette raison-là, alors, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que dans notre mémoire, c'est toujours là. Donc, il y a quelque chose à reconnecter chez nous, un travail à faire pour reconnecter cette relation-là à la nature. Et donc, la nature étant l'expression de l'invisible pour eux et donc à l'invisible.
D'accord. D'ailleurs, dans votre livre, vous faites la liaison entre la santé de l'homme et la santé
Du monde.
environnementale du monde.
Oui.
C'est la manière effectivement dont. Et d'ailleurs, enfin, il y a aussi autre chose que j'ai trouvé très intelligent, c'est que les peuples, quand il y a un individu malade, réunissent effectivement toute la communauté. Pour au service, pour donner le soin à l'individu qui est malade. Parce que si un individu est malade, ça veut dire que toute la communauté est malade.
Parce que si un individu est malade, c'est le symptôme du fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la communauté. Je fais ce parallèle en disant que les individus seraient quelque chose comme les cellules d'un corps vivant, les sociétés seraient les organes d'un corps vivant, et donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est l'ensemble qui en pâtit. Alors chez les Lakota, le mot santé se traduit, alors je vais pas vous le dire bien, donc je vais pas le dire, mais ça se traduit par un homme en équilibre. Un homme en santé, c'est quelqu'un qui est en équilibre. Donc en équilibre avec lui-même et en équilibre avec tout ce qui l'entoure. Donc, s'il ne va pas bien, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et ça, on le retrouve dans toutes ces sociétés. Où qu'on aille sur la planète, on retrouve que le fait que s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, c'est qu'il y a un déséquilibre par rapport à tout ce qui l'entoure, par rapport au groupe ou par rapport à plus grand. Donc, finalement, par exemple, chez les Navarros, c'est même considéré comme quelque chose dont on doit tenir compte pour... on va remercier la personne d'une certaine façon de se guérir, de prendre soin d'elle, parce que ça permettra à la communauté dans son ensemble de retrouver son équilibre. Donc c'est une inversion par rapport à notre vision. Et finalement, si on transpose ça chez nous, c'est intéressant de se dire, bah, quelqu'un qui va pas bien, plutôt que de se dire, tiens, il va pas bien, donc il a un problème. Qu'est-ce qui dans le système fait qu'il ne va pas bien? Ça remet entièrement les choses dans un autre équilibre. C'est une proposition de revoir les choses sous un autre angle et d'inverser le questionnement que pose la maladie, que pose le mal-être aussi, puisque ça commence par un mal-être. Dans leur vision, en fait, tout problème physique, tout problème psychologique vient d'un autre niveau, donc ce niveau invisible dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut traduire peut-être par un spirituel, pour utiliser des mots qui sont les nôtres. Et ensuite, ça va se cristalliser, donc ça va finir par apparaître dans la matière ou dans un mal-être. Mais il y a un moment quelque chose qui est de l'ordre d'une... Ça peut être une émotion qui va être non digérée ou qui va pouvoir, à un moment, au niveau de l'énergie, parce que donc il y a cette notion d'énergie qui est présente. En gros, tout ce qui entoure l'individu, il y a son corps, mais tout ce qui nous entoure est énergie. Donc tout ce qui vient à un moment ou à un autre semer le trouble dans l'énergie qui est entre nous, peut finir par se cristalliser, par créer un problème. Donc un problème psychologique ou un problème physique à l'arrivée. Et toutes ces sociétés-là, ayant la conscience de l'existence de cet invisible entre soi, enfin, tout autour de nous, ont organisé leur système de façon à ce qu'on puisse faire de la prévention, soigner, alors de la prévention et soigner aussi a posteriori parfois les maladies par des rituels, par des toutes sortes d'approches qui vont rééquilibrer les énergies, qui vont remettre les personnes en phase. J'aime bien utiliser le terme remettre au diapason. On trouve ça dans les huttes de sudation, on trouve ça dans tous les rituels, en vérité, de se remettre au diapason alors il parle du souffle de l'univers. Et c'est ce souffle de l'univers qui est finalement le souffle qui nous traverse quand on est et qui nous accompagne de la naissance jusqu'à la fin.
Alors ces rituels commencent dès l'enfance. Alors dans votre livre, vous expliquez effectivement comment, alors je ne sais plus quelle tribu, mais j'imagine, enfin j'ai cru comprendre que c'était à peu près transversal chez toutes les tribus, qu'on explique à l'enfant... à décrypter ses émotions. On apprend à l'enfant comment décrypter ses émotions et on lui explique que ses émotions, et d'ailleurs il y a une expression où vous dites à un moment, ne disent pas je suis triste, la tristesse m'accompagne.
Oui, ça c'est les dîners, oui, effectivement. Enfin, les dîners, c'est-à-dire les Navarros. Effectivement, pour dire je suis triste, si on le traduit littéralement, ça veut dire la tristesse m'accompagne. C'est-à-dire en fait, en réalité, l'idée c'est que les émotions ne font que nous traverser. Nous ne sommes pas nos émotions. Ça c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui, que la psychologie redécouvre aujourd'hui, mais ils le savent eux depuis toujours. Et donc ne pas s'identifier à l'émotion, c'est un travail qui est fait. Évidemment, ils vont pas avoir besoin de faire de la psychologie. C'est fait comme ça dans le relationnel. C'est-à-dire, il y a aussi beaucoup de transmission qui se fait simplement par l'observation des parents. Donc, à partir du moment où les énergies d'émotions négatives ne traversent pas les parents, ils vont pas traverser les enfants. Par exemple, dans l'éducation des enfants, la peur. Nous éduquons nos enfants à la peur, attention, tu vas te faire mal, attention au couteau, etc. Dans tous ces peuples-là, l'usage des choses, des outils, des objets qui pourraient être dangereux chez nous ne sont pas... surtout, au contraire, c'est une expérience que l'enfant doit se faire. Si à un moment il se coupe, c'est qu'il devait faire l'expérience de cet objet coupe, donc il fait mal, donc tu ne le feras plus. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est... Donc, cela existe parce qu'il y a chez eux aussi quelque chose comme une confiance profonde dans le mouvement de la vie, dans le fait que le mouvement de la vie est juste, parce qu'il est relié à cet invisible, à cette intelligence invisible de la vie qui nous apporte en permanence des informations et qui aussi nous apprend.
D'accord. Alors, pour poursuivre sur les rites, donc vous parliez des huttes de sudation, il y a les tambours. Alors, j'ai découvert qu'effectivement, le fait de taper, enfin de oui, taper dans un tambour, sur un tambour en peau, c'est invoquer en fait les esprits et pas potentiellement les meilleurs.
Alors ça c'est effectivement ce que m'a expliqué clairement, enfin ce qu'expliquait à un groupe, hein, il me l'a redit, un chaman qui est venu de Mongolie. Donc je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai que nous depuis, allez on va dire 20-30 ans, on redécouvre le tambour, le chamanisme, il y a toute une vogue de ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Et où effectivement ça, alors, ce tambour ça a l'air d'être quand même, enfin c'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il nous amène à nous mettre dans à toucher des états dans lesquels on peut percevoir des choses qu'on ne perçoit pas forcément dans un état de conscience ordinaire. Alors on en parle d'état de conscience modifié, moi je préfère utiliser le terme d'état de conscience élargi.
D'accord.
Parce que je pense qu'on perçoit plus de choses dans ces états là Et en fait, donc ce chaman-là me disait, j'ai accepté de venir en France, et il y en avait deux autres avant lui qui avaient fait ce même chemin, parce que les esprits là-bas en Mongolie leur disent, il faut aller aider les chamans français. Donc bon, ok. Et effectivement, en venant ici, il voyait qu'il y avait plein de gens qui avaient des tambours en peau et qui boum boum faisaient, voilà. Et il a dit, attention, attention. Chez nous, on n'utilise pas cet outil avant d'avoir fait une très longue formation avec un chaman qui est issu d'une lignée qui a su filtrer les bons des mauvais esprits. Et ensuite, quand l'apprenti chaman a fait son chemin, là, il peut être capable lui aussi de faire ça. Donc, il disait, attention, là, depuis quelques années, il y a des choses qui sont en train de se réveiller parce que l'invisible... Alors, de quoi est fait l'invisible, ça c'est une autre grande question. Donc j'ai essayé hein, dans le livre de faire ce que j'appelle une cartographie des mondes invisibles en me référant à différentes cultures et en montrant un peu ce qu'il nous explique. Donc il y a cet invisible, il est fait d'ombre et de lumière pour le simplifier. Et donc effectivement on peut toucher la lumière, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, parfois on peut réveiller des choses qui viennent de l'ombre. Et manifestement, ce que nous disent ces chamans qui n'ont pas, enfin, qui ont une connaissance ancestrale qui ne s'est pas véritablement arrêtée depuis des millénaires, alors que la nôtre s'est arrêtée, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Et avec l'enthousiasme du débutant, on fonce, on y va, parce que oui, ce sont des états qui sont vraiment très agréables à toucher, parce qu'on y découvre des choses vraiment... qui sont de l'ordre de... Alors on parle de puissance, de pouvoir... On peut découvrir beaucoup de choses de soi à l'intérieur de ces pratiques. Donc c'est grisant, voilà, il y a quelque chose de grisant. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que nous on est un peu comme des enfants qui redécouvrent un outil et qui se disent « Waouh, c'est génial, j'y vais à fond », en oubliant qu'il y a quand même des codes et des règles à respecter dans ces mondes-là que nous avons un petit peu oubliés. Donc, c'est aussi une des choses que j'avais envie de mettre en avant dans cette approche, dans cette enquête et dans ce livre, c'est de dire toutes ces traditions, on les a eues il y a longtemps. Elles étaient chez nous aussi, puisqu'il n'y a pas de raison. On était nous aussi en relation avec la Terre, on était nous aussi en capacité d'ouvrir nos sens comme le sont les chamans de ces peuples-là. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons perdues et que eux ont encore. Et donc le travail peut-être aujourd'hui il serait de dire dialoguons avec eux, ouvrons quelque chose, ouvrons des espaces d'échange, d'apprentissage. Revenons peut-être à une posture un peu plus humble pour éviter ce genre d'écueil de partir à fond dans certaines pratiques sans toujours savoir ce qu'on fait en fait.
Alors, vous parlez, vous faites référence, j'imagine, et vous en avez fait référence, vous avez fait référence juste avant au néo-chamanisme occidental, effectivement, qui pullule hein, un peu partout. Et c'est vrai que dans votre livre, on comprend que pour devenir chaman, c'est une traversée exigeante. Mm. Les futurs chamans sont isolés du monde, enfin en tout cas des autres, pendant plusieurs années, 19 ans, 20 ans
Alors ça dépend, c'est, alors chez les Kogis de Colombie, ouais. c'est 18 ans, ça peut être jusqu'à 18 ans dans le noir, 9 ans ou 18 ans, ouais. effectivement, dans le noir et complètement isolés depuis leur naissance, hein, donc c'est vraiment quelque chose à part. Ce sont des personnes qui vont rentrer en relation avec le monde d'une façon complètement différente et qui, quand ils sortent de là, connaissent le monde. C'est un truc totalement mystérieux pour nous. Mais en tout cas, c'est là et ça a été constaté à plusieurs reprises. Après, dans d'autres traditions, ça va être le chaman pour faire son apprentissage. Il va avoir des longues initiations. En Amazonie, ça va être des temps d'isolement, effectivement, dans la forêt, à diéter des plantes. Ça peut durer un an. Ça durait plus avant. Aujourd'hui, le temps se raccourcit peut-être parce qu'il est en lien avec notre monde civilisé. Mmh. Mais en tout cas, c'était des années d'apprentissage. Et les hommes médecine, Lakota, par exemple, c'est toute une vie, en fait. C'est vraiment toute une vie. Et chez les Navarros, on retrouve la même chose. Je dis Navarro, j'utilise le terme d'iné dans mon livre, parce que c'est la façon dont ils se nomment eux-mêmes. Chez ces peuples-là, on voit que ce sont vraiment des apprentissages d'une vie. Donc, arriver chez nous... Alors, c'est toujours la difficulté de transposer ces approches traditionnelles à un monde qui fonctionne sur un mode de consommation et qui a tendance, parce qu'on est éduqué pour ça, à vouloir tout de suite. Ouais. Donc, il y a chez nous des gens qui naissent avec quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle les chamans. Alors ce mot chaman, il prête à confusion aussi, hein, il correspond, à l'origine, ça vient de la langue tungouse. Sibérie, donc ça détermine. C'était les anthropologues en fait qui ont utilisé ce mot-là qui ont généralisé ce mot-là pour définir les gens qui étaient en lien avec l'invisible.
D'accord.
Pour moi aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça fait partie de notre culture ? C'est pas évident. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de réinventer quelque chose ? Peut-être. Alors, le chamanisme, c'est une notion qui existe. On retrouve cette idée de se mettre en relation avec l'invisible un petit peu partout dans le monde. Il y a chez nous des gens qui ont cette capacité-là, parce que peut-être il y avait quelque chose qui est issu d'une lignée ou de je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a des gens qui se retrouvent avec des capacités comme ça, qui ont du mal à trouver leur place et leur situation chez nous, parfois. Donc, il y a deux choses. Il y a d'un côté, peut-être il faudrait réouvrir la possibilité que cela existe dans nos sociétés. Mais par ailleurs, savoir que peut-être il y a... Enfin, ne pas vouloir systématiquement transposer quelque chose qui est très exotique de chez eux à chez nous. Des modes à réinventer, enfin des moyens, des façons de le faire qui sera à réinventer. En tout cas, c'est là, aujourd'hui. On a affaire à beaucoup de propositions. Il y a des propositions qui sont intéressantes, d'autres moins. Je crois qu'il faut vraiment beaucoup faire travailler son discernement pour explorer ces voies-là. Il y en a qui sont très valides, il y en a d'autres qui sont un peu trop rapidement validées.
D'accord. Et quid effectivement des Européens occidentaux qui partent à la rencontre de ces peuples premiers pour faire l'expérience d'herbes magiques? Vous en parlez un peu dans votre livre, vous dites qu'il y en a qui en reviennent pas toujours très très bien. Alors, vous développez pas beaucoup sur cette partie-là.
Je développe pas parce que d'abord c'est une approche qui n'est pas légale en France, donc je n'ai pas envie d'en faire la promotion parce que ça n'est pas légal. Ensuite j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait bien sûr, et pour elles ça a été un chemin de vie, donc je pense que ça peut arriver que ça fasse partie du chemin de vie d'un Européen. Je parle des passeurs dont je parle. Que j'interroge dans le livre aussi, pour certains d'entre eux, sont passés par ces voies-là, mais ces voies-là leur ont permis de revenir ici et de refaire quelque chose à partir de nos propres cultures. Donc je trouvais que là, ça devenait quelque chose d'intéressant. Si on y va juste pour avoir la réponse au grand mystère qui nous anime, je pense que c'est intéressant d'aller voir d'abord ici quelles peuvent être les réponses à cette question. Aller là-bas parce qu'à un moment la vie nous envoie plein de panneaux indicateurs pour y aller, à chacun de choisir, je dirais. Mais en tout cas, toujours le faire en connaissance de cause, en se disant je me suis fait accompagner par quelqu'un de ma culture qui est là, qui m'a effectivement aidé à franchir ce cap-là. Enfin, je pense qu'il y a des protections, il y a des précautions à prendre avant de se lancer là-dedans. Je pense que c'est pas de notre culture, encore une fois. Donc ça peut être bouleversant. Il y a eu beaucoup, enfin j'ai rencontré beaucoup de personnes qui effectivement, alors soit connaissent des personnes qui, mais j'en ai croisé quelques-unes aussi, qui ont beaucoup de mal à en revenir parce que ce sont des expériences qui peuvent être bouleversantes selon nos chemins de vie. Donc il faut pas les forcer. Voilà, c'est tout simplement quelque chose comme ça. Ne surtout pas les forcer. Voilà. On a toujours une envie de consommer, d'avoir la solution tout de suite, il faut se méfier de ces réflexes-là. Ouais.
D'ailleurs, vous le dites très bien à travers effectivement la voix de ces peuples, ce voyage artificiel n'est pas nécessaire en fait.
Absolument, il y a d'autres voies. Ouais. Ben justement, la voix du tambour dont on parlait tout à l'heure, pourquoi pas,
le
si
chant.
C'est bien fait, il y a le chant, il y a les peintures de sable, enfin, il y a plein de voix. La reconnexion à la nature, c'est la première des voies. Pour moi, c'est la voie première, c'est d'abord... retoucher quelque chose de notre lien à la nature. Et là, effectivement, on peut commencer à cheminer. Mais je pense que c'est même le préalable, en fait.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Frédérica, qu'on retienne, effectivement, de votre livre, s'il y avait un message, un élément que vous aimeriez, effectivement, que vous aviez envie, en écrivant votre livre, vous avez envie aujourd'hui de... un message à faire passer.
Alors il y a quelque chose alors qui est pas forcément très 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 évident et en même temps très évident à accepter pour nous qui justement sommes des consommateurs de ce qui nous entoure et que je trouve en revanche très très beau dans leur façon d'approcher la vie, parce que finalement c'est ça, hein, leur approche de la santé, c'est comment je cultive la vie qui me traverse en fait. Donc c'est la conscience de la responsabilité de la vie qui me traverse. Donc je sais que le terme responsabilité est parfois lourd, mais en revanche, la façon dont ils le vivent, c'est beau. C'est ok, si je suis là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc mon chemin, c'est de découvrir la raison pour laquelle je suis là. Mon équilibre et l'équilibre du groupe et du vivant dépend de ma capacité à trouver ce chemin et à trouver cette place qui est la mienne. Et ça, je trouve que c'est un message qui est beau. Donc j'aime bien cette notion de cultiver à la fois la responsabilité et puis en même temps, parce que cultiver cette responsabilité, c'est aussi se réveiller le matin et se dire ok, là je me sens pas très bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour remettre quelque chose de beau dans lequel je crois vraiment dans le quotidien, dans ma journée, dans ma vie. Donc voilà, cultiver quelque chose comme la beauté, parce que la responsabilité peut aller avec cette idée de cultiver la beauté, ça va ensemble dans leur vision. Et là, à partir de là, on peut commencer à envisager de construire des systèmes qui s'organisent autour de cette notion de beauté et de responsabilité de la vie.
Donc c'est redonner le pouvoir, reprendre son pouvoir.
Alors oui, c'est le terme qui est utilisé dans certaines traditions, effectivement, c'est retrouver son pouvoir. Sachant que c'est pas un pouvoir sur les autres, c'est mon pouvoir sur mon pouvoir à moi, c'est-à-dire quelle est ma contribution à ce monde, quel pouvoir j'ai de contribuer à ce monde, sachant que dans cette notion de pouvoir, c'est toujours une contribution au service du vivant. Dans la vision de tous ces peuples, on retrouve toujours cette idée que l'humain est au service du vivant. Donc c'est comment je cultive mon pouvoir d'être en lien et de faire que ce vivant s'épanouisse à travers moi.
Eh bien, merci Frédérica.
Merci Mal.
Pour votre livre, pour votre don, parce que c'est vraiment un voyage, vous nous offrez là un voyage initiatique auprès de peuples qui sont lointains.
Et qui sont encore là et qui vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc j'espère aussi qu'à travers ces messages-là, il y aura quelque chose de l'ordre du respect et de leur redonner leur vraie place, parce que leur place de grand frère, ils la méritent vraiment.
Merci Frédérica.
Merci.
Donc je rappelle le titre de votre livre, Ce que les peuples racines ont à nous dire, de la santé des hommes et de la santé du monde, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Voilà. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous rappelle le titre du livre de Frédérica Vöningen, Ce que les peuples racines ont à nous dire, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur.